Podcast, épisode 281. Apéricube apomorphique, partie 1. Enregistré le 8 juillet 2022. Cet épisode news est devenu un épisode marathon et donc pour protéger vos petites oreilles, nous avons décidé de le découper en deux morceaux. Donc vous aurez la première morceau quand vous l'écoutez, la partie 2 qui commencera à partir de l'architecture sera là la semaine prochaine. Voilà, bonne écoute à vous et bon été à tous. T'as de la chance, c'est pas enregistré celui-là. Bon, allez, on y va. Bonjour et bienvenue au Cascodeur. Nous sommes l'épisode 281. C'est un épisode nouvel. Et je suis accompagné d'un t-shirt noir et d'un autre t-shirt noir, mais avec un Deathfest dessus.
Ouais. Alors moi, un t-shirt noir, c'est tout à fait normal. Je m'appelle Antonio, je m'habille en noir depuis des décennies et c'est pas prêt de changer.
Voilà. Moi, je m'habille pas tous les jours en noir. Je m'appelle Guillaume. Et oui, j'ai dû aller. Attends, celui-là, c'est quoi? C'est Deathfest Nantes, c'est ça?
Ouais, Nantes 2017.
Deathfest Nantes, ouais, 2017. C'est ça.
Et Antonio aussi. Pour sauver la planète, faut que tu t'habilles en blanc.
Oh, punaise. Attends, je réfléchis. Donc, Emmanuel Bernard est habillé en bleu, là, aujourd'hui.
Ouais, je suis habillé en bleu. Je suis habillé subvention.
C'est le rachat d'IBM, ça, c'est le rachat d'IBM. Maintenant, c'est du Big Blue partout.
Non, regarde, c'est le... Ouais. Alors, nous allons commencer par les nouvelles et nous allons commencer par les langages. Et il y a une proposition dans Java de nouvelles syntaxes pour les records, pour les créer plus facilement, en fait.
C'est Brian Guts qui a envoyé un mail suggérant ça, donc pour simplifier donc la création de records et aussi de records dérivés, avec par exemple...
Qu'est-ce que t'appelles un record dérivé?
Non, dérivé d'un record existant, donc tu peux créer un nouveau record, pareil que l'autre, à part que tu changes certains trucs.
D'accord.
Parce que c'est pas dérivé dans le sens classe dérivée. Hein. Et du coup, l'idée, c'est que donc en fait, au lieu de donc on va pouvoir faire parce qu'en fait le truc qui embêtait Brian Guts, c'était le fait d'essayer d'introduire une notion de valeur par défaut pour des paramètres et en particulier dans les constructeurs. Donc, au lieu de dire, par exemple, si on a un record qu'on veut créer, on a le nom, prénom et l'âge. On veut toujours le nom, prénom, mais l'âge est peut-être optionnel. Et du coup, est-ce qu'on fait plusieurs constructeurs? Est-ce qu'on introduit des variables par défaut? Ce qui fait que, je sais pas, il y aura zéro comme âge ou plus infinity ou n'importe quoi. Et donc c'était pas forcément ce qu'il voulait faire, donc il propose une syntaxe différente avec, donc on fait new le record, on peut lui passer les paramètres standards dont il a besoin, mais on peut faire with et on ouvre des accolades.
Des accolades.
Et là on met les assignations with age égale 32, 42, etc. Ouais. Donc c'est une proposition.
C'est un bloc Java.
Alors c'est pas un bloc Java non plus standard parce que il va autoriser que je crois les. Faudrait que je revérifie, mais il me semble qu'il n'autorise que les assignements ou assignations. Je sais jamais comment dire en français.
Assignation c'est légal, mais après je sais pas si c'est
ouais,
Java.
Assignation donc après bon. Le petit bémol, moi, que je vois, c'est par rapport à Groovy, parce qu'on a une syntaxe, les chaînes de commandes où on peut se passer de points et de parenthèses, etc. Donc, ça va clasher avec la syntaxe qu'on a en Groovy. Mais bon, sinon, ça a l'air pratique et ça évite de créer des classes de builders de partout qui ont tendance à me sortir par les yeux dans les API, alors que des fois, j'aimerais juste créer des choses avec un bon vieux constructeur. Et ça évite aussi, évidemment, de faire autant de méthodes dans ton record, genre with name, with machin.
With name by default, with machin.
Voilà, donc ça permet de garder une syntaxe légère sans avoir à créer autant de with ceci.
Ce qui est un peu curieux, c'est que tu peux quand même utiliser le constructeur pour les valeurs dites non par défaut, mais utiliser with avec. Donc, tu en as config égale new config et on passe les paramètres de constructeur. Et après, un with, c'est égal 3, q égale 45 dans cet exemple. Bon, à voir en usage.
Donc après, c'est une proposition. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. C'est ni. Alors, j'ai pas vérifié s'il y avait d'autres réponses dans le thread. Donc, je ne sais pas si ça va être un JEP, si ça va être. J'ai pas suivi la suite de la discussion sur la mailing list. Mais en tout cas, bon, je trouve ça toujours intéressant. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que la solution de facilité, ça peut être effectivement, donc quand on veut évoluer un langage de programmation, ça peut être de rajouter les fonctionnalités qu'on connaît déjà dans d'autres langages, que ce soit par exemple en Python, en Kotlin, Groovy, etc. On peut faire des valeurs par défaut pour les paramètres, des arguments. Et en fait, au lieu de faire ça, il a réfléchi, j'aime bien... même s'il est toujours très condescendant, Brian Gutt, j'aime bien malgré tout le fait qu'il réfléchisse plus loin dans la vision du langage et sur le fait de trouver des alternatives qui permettent aussi de simplifier ou rendre plus élégant des choses alors qui étaient hors, en quelque sorte, hors périmètre par rapport aux fonctionnalités classiques qu'on connaît comme cette idée de rajouter des paramètres par défaut. Et j'aime bien parce que je trouve que Java évolue de manière élégante et on va le voir, hein, tout à l'heure, on va parler d'un autre article que Brian Gutz a écrit d'ailleurs sur InfoQ. J'aime bien l'idée que c'est vraiment bien réfléchi ces nouvelles fonctionnalités. Ça prend son temps, mais c'est bien réfléchi.
Alors après, il dit quand même qu'il s'est inspiré de C Sharp.
Ouais.
Puisqu'il dit Our friends of C Sharp ont déjà un peu une notion. Oui. On déjà
dit toujours, but we can do better. Right?
But we can do better.
Voilà.
C'est le côté.
Mais c'est vrai que c'était les grands
jeux.
Alors, est-ce que tu sais, Guillaume, peut-être, pourquoi il ne veut pas mettre des paramètres, des noms, enfin, des valeurs par défaut aux paramètres de constructeur?
Alors, attends, parce qu'il me semble qu'il le mentionnait, il faut que je relise de près. Il n'en parlait pas, justement. Après, il y a différents problèmes aussi, hein, quand même, avec. Enfin, là, c'est moi, mon interprétation à moi. Là, c'est parce que c'est pas ce qu'il écrit dans le thread. Mais le problème des paramètres par défaut dans les constructeurs, c'est que, par exemple, dans Groovy, par exemple, je vais prendre cet exemple-là. En général, les paramètres par défaut, c'est ceux qui sont à la fin du constructeur. Donc, faut les avoir bien choisis. C'est-à-dire, faut savoir déjà à l'avance comment les gens vont construire ton objet. Et nom, prénom, ok, je veux qu'il soit tout le temps, et là j'ai optionnel. Bon, c'est bon. Mais quand t'as beaucoup de paramètres, plus de paramètres, peut-être que, imagine, t'as âge et adresse. Alors, est-ce que c'est l'âge ou c'est l'adresse qui va être par défaut, enfin, qui va être omis quand tu fais la création de l'objet?
Il faudrait des paramètres nommés, en fait.
Donc après, ça peut introduire aussi les paramètres nommés, comme tu as effectivement dans certains langages, dans Python et autres. Mais voilà, ça, tu peux des fois déduire des choses en fonction des types. Donc si, par exemple, au lieu de l'âge, ça va être un entier, par exemple, mais l'autre, c'est une chaîne de caractères. Mais après, tu vas avoir plein de petites règles, des fois un peu bizarres. Et alors, du coup, si c'est le même type, qu'est-ce qu'on fait? Lequel prend la valeur par défaut? Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est...
D'accord.
Enfin, ça introduit pas mal de, je dirais, de complexité, dans les règles connaître et à suivre. Alors que là, c'est élégant, ça te laisse le choix d'étendre, de faire with de n'importe quel champ, il y a aucun souci. Et l'idée, en tout cas, il te montre aussi un exemple de syntaxe où tu peux quand même avoir plusieurs constructeurs déjà prédéfinis, un avec nom-prénom, un avec autre chose, ce qui n'empêche pas, tu sais, la notation, quand tu fais un record, tu passes la liste des paramètres, tu mets record, le nom du record, parenthèse, la liste des paramètres, et ensuite tu ouvres la collade pour le body de ton record. Ça n'empêche pas que tu peux avoir des constructeurs avec un certain sous-ensemble de ces paramètres. De ces paramètres. Oui, pas par défaut.
En tout cas, dans la proposition, il dit que dans C Sharp, effectivement, ce bloc n'est que pour les assignations. Alors que là, il veut en faire un bloc arbitraire Java où on pourrait faire des boucles, des assignations.
Ah si, ouais, donc c'est en C Sharp, c'est comme ça, ok.
Ouais. Voilà. Donc, yes. On va rester avec Brian Goetz.
Ouais.
Et il a écrit un article sur le data-oriented programming. Et je dois dire que je ne suis pas le dernier à taper sur Brian et à trouver, comme toi, qu'il a une façon d'approcher les problèmes qui peut être énervante. Mais là, je l'ai trouvé très bien et j'ai pas senti du tout de traces de ça. Et donc, il explique que le projet Amber, qui amène des changements qui combinés peuvent faire ce qu'il appelle du data, enfin ce qu'on appelle du data oriented programming en Java, et pas que du object oriented programming. Et donc le pattern matching, les records et plein d'autres choses, ça fait partie du portefeuille Amber en fait. Et donc il dit voilà, l'orienté objet, c'est super quand justement on amène de la complexité dans les programmes parce qu'il combine la notion d'état et de comportement. Et il est super utile pour défendre les limites. On parle d'encapsulation en général. D'accord? Et du coup, on peut avoir des morceaux de son code qui sont encapsulés dans des objets ou un ensemble d'objets. Et c'est notre frontière de pensée. Et puis après, il y a d'autres frontières de pensée dans le code qui vont interagir qu'avec l'interface publique. Et donc, ça permet de faire évoluer les choses en ayant quelque part des interfaces concrètes et une capacité d'aller changer ce qu'il y a derrière. Et il dit, mais on voit que les gens, au lieu d'écrire à l'époque des applications complètes avec toutes les règles métiers dedans, on s'oriente vers des applications beaucoup plus focalisées, donc des microservices. D'ailleurs, DevOps microservices.
Oh, je vous parle d'un temps.
Ouais, c'est ça. Aïe, ça c'est un des Covid Mahu.
Ouais, Covid Mahu,
ouais. Et il dit bah du coup là il y a un petit shift vers ce qu'on appelle le data oriented programming où on modélise des données idéalement immuables et dont le code, la logique de code est séparée, c'est-à-dire qu'on a vraiment en gros les entre guillemets les getters et les setters, enfin les propriétés, et puis la logique qui va travailler sur ces propriétés là on n'est pas obligé de la mettre dans l'objet, donc c'est une approche différente de l'orienté objet pur. Et il dit, ben voilà, les records, justement, c'est cette notion de classe immuable, vraiment en tant que données, et avec jusqu'à zéro logique dedans. Les classes scellées, les sealed classes, ça permet de définir un choix parmi les sous-classes, et du coup, de faire du pattern matching, de dire, si je suis dans le cas rectangle, ou dans le cas cercle, dans le cas polygone, etc., donc de faire des définitions comme ça. Et ça permet de raisonner sur des données qui sont polymorphiques, mais en dehors de la classe, plutôt que de raisonner au sein de la classe en termes de hiérarchie. Et donc, ça s'appelle le algebraic data. Je ne sais pas si on dit la donnée algébraïque, mais...
Algébraique.
Et donc, c'est une hiérarchie de classes scellées, et dont les feuilles sont des records, qui sont donc immuables. Donc, ils sont nommés. Donc, chacun des types comme ça sont nommés. Ils sont immuables. Et ils sont testables en dehors via le pattern matching et toutes les approches de déstructuration des appels. Voilà, j'ai fait un bon résumé.
Et l'exemple qu'il donne est pas mal parce que l'exemple qu'il donne en plus est assez parlant. Il donne un exemple simple d'une ligne de commande. Donc là c'est 4, mais enfin bon voilà, imaginez, vous êtes en ligne de commande et puis il y a toujours plein de paramètres. Donc vous faites tirer tartampion et puis tartampion égale true false, tartampion égale un énum. Donc tout ça c'est de la donnée. En fait, et donc il montre comment avec des sealed classes et des records et avec du typage fort, donc un paramètre de type entier, l'autre de type string, bref, on arrive à en fait à créer c'est Silkla, c'est Ricord, il est mappé sur votre ligne de commande, sur les paramètres de votre ligne de commande. Et je trouve que l'exemple est plutôt parlant, simple, parlant. Après, ça se complexifie un peu. Et c'est vrai que là, vous avez une suite de classes et de records qui mappe bien les données de votre commande et puis après les données de votre base de données, du JSON aussi. Il parle de JSON, d'XML et de choses comme ça.
Et c'est vrai que pour les, pour avoir travaillé sur des langages de programmation et des parseurs, des choses comme ça, je trouve que c'est assez bien adapté, les records, les sealed classes et puis le pattern matching comme ça, pour vraiment regarder la structure des données, pour s'y retrouver, plutôt que de faire par exemple des bons vieux patterns. Ah oui, ça d'ailleurs on va en reparler aussi tout à l'heure, au lieu de faire du pattern visiteur, qui est un petit peu pénible pour savoir où on en est dans un arbre, dans une grappe d'objets, etc. Là, on peut reconnaître des morceaux, enfin des patterns, quoi, des patterns, des motifs dans du code, dans des structures. Et je trouve que c'est fait de manière assez élégante. J'ai vu aussi plusieurs, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur Twitter, plusieurs personnes qui montraient quelques exemples. En quotant d'ailleurs peut-être bien Brian, en lui disant « Ah, regarde ce que j'arrive à faire maintenant pour parser telle chose », et tu voyais du code très élégant avec mélange de records, de seal classes et de pattern matching, et je trouve ça vraiment très très adapté. Et là, en ce moment, je suis en train de... Enfin, j'ai commencé, j'ai pas beaucoup avancé dessus, d'essayer de faire un petit transpiler de code groovy vers une structure, peu importe laquelle, mais en YAML, et je me tape du visiteur de partout et pour essayer de me retrouver là-dedans, et j'ai pensé à ça, je me suis dit, ah bah tiens, peut-être faudrait que j'essaye autre chose, une approche différente, parce que ça me permettrait de plus facilement m'y retrouver, plutôt que de maintenir l'état d'une visite dans un visiteur, c'est toujours un peu galère, quoi.
Et il parle effectivement de ça où ta donnée elle évoluera, et c'est vrai qu'à maintenir c'est plus élégant comme
C'est plus élégant, mais ça reste
on dit pas que c'est simple non plus.
Non mais je veux dire, ça reste désencapsulé, c'est-à-dire que si tu importes une librairie de data et que tu rajoutes de la logique dedans, ça va péter. C'est la vie. D'ailleurs, moi, je suis président du visiteur anonyme.
D'accord.
Donc, c'est le club des gens qui peuvent parler de leurs problèmes avec le visiteur et qui le comprennent pas. Et qui sont censés être des développeurs, mais que. Bon, on va avancer parce qu'on a plein de nouvelles. En parlant de langage, il y a une nouvelle proposition d'API pour créer des classes, en fait.
En créer, lire, introspecter, etc. Ouais.
Et toujours par Brian Goetz. Hein.
Ouais, Brian a sponsorisé l'épisode.
C'est pas comme si c'était l'architecte du langage, quoi. Après, bon. Et ce qui est intéressant, c'est que le JDK, en fait, il inclut déjà des forks de ASM, du bon vieux BCEL, plus d'autres API internes qui existaient déjà. Donc, toujours pour manipuler, produire, lire, introspecter du bytecode. Et en fait, un des problèmes, c'est que, tu sais, on pourrait se dire, oh tiens, on pourrait standardiser, on utilise ASM et puis c'est bon, basta. Mais c'est vrai que le problème, c'est que ASM, pour qu'il supporte la dernière version de Java, faut que Java soit sorti. Mais pour que Java utilise la dernière version de ASM qui soit compatible avec cette nouvelle version de Java, faudrait que ASM soit sorti pour la version de Java qui n'est pas encore sortie. Enfin bref, c'est évidemment le serpent qui se mord un petit peu la queue. Donc,
utiliser ça comme excuse pour dire du coup je vais faire un truc entièrement différent,
moi oui, non, alors
c'est un peu limite quand même.
C'est un petit peu limite parce que effectivement on peut sortir à l'avance, je veux dire, quelque chose qui est compatible avec la version de Java, par exemple. Donc,
mais par contre, c'est vrai qu'ASM a une API historique, du coup, avec peut-être des visiteurs et des
Justement,
choses comme ça.
Plein de visiteurs.
De visiteurs.
Et avec tout ce qu'on voit là, on peut imaginer que là, tu pourrais faire quand même une API beaucoup plus facile à utiliser.
Exactement. Et donc, là, ce qu'il écrivait dans le JEP aussi, justement, avec tout ce qui est pattern matching, record, etc., en tout cas, quand tu regarderas la structure du bytecode produit, tu vas pouvoir retrouver plus facilement certaines structures dans ton bytecode, parce que tu vas pouvoir faire du pattern matching avec différents niveaux de nesting.
D'imbrication.
L'imbrication, merci. Et ce sera beaucoup plus simple que ce fameux pattern visiteur qui est toujours un peu pénible.
Par contre, il dit bien que cette API n'est pas là pour supprimer tous ces frameworks-là, quoi.
Ah non, non,
il dit pas que ça remplacera tout, il dit pas non plus que ça sera l'API la plus performante, il dit pas tout ça.
Et puis aussi, là, quand on parlait des builders aussi tout à l'heure, quand on crée du bytecode avec ASM, bah, on fait toujours le visiteur point visite machin, point visite machin, visiteur point visite, et c'est vrai que là, tu pourras certainement faire aussi des choses, des API plus fluentes aussi pour pouvoir créer du bytecode. Donc un bon mix, encore une fois. Record, seal classes, pattern matching, le switch amélioré, etc. Ça devrait rendre le code quand même beaucoup plus élégant. Voilà.
Et en parlant de record, les record patterns.
Ouais.
Lilian nous a fait un petit article qui vous montre en fait. Voilà ce qui pourrait arriver, donc pour vous documentiez sans avoir forcément utilisé la dernière version du JDK et notamment désactiver les previews, de voir un peu visuellement les choses. Donc il a fait un petit article là-dessus.
C'est vrai qu'il est bien fait.
Il y a plein d'exemples.
Il y a beaucoup d'exemples de code et c'est vrai que l'article est pas mal. En plus, il est en français. Et c'est vrai qu'il vous dit bon. Alors, c'est vrai qu'expliquer oralement, c'est pas facile, mais quand vous faites if un objet est instance de string, bah après, vous êtes obligé de prendre cet objet, de le caster en string, afin de manipuler la string. Et là, en fait, ce qui risque de se passer, c'est si votre objet est d'instance of string, mais là, vous passez le paramètre. Ce qui est assez balèze, c'est que la syntaxe c'est if donc objet instance string et là vous faites if objet instance string s et donc vous dites s est un string si l'objet est instance de string. Et donc lorsque vous rentrez dans votre if, vous avez tout de suite accès à s qui est de type string puisque vous le savez.
Personnellement, moi, j'étais pas super fan de cette syntaxe-là et je préférais l'approche que nous, on avait employée dans Groovy, par exemple, qui fait que quand il y a un object instance of string à l'intérieur du bloc de ton if, on sait que c'est une string. Donc, tu peux appeler tout ce qui est string, les méthodes de string, je sais pas, to uppercase, etc., dessus, sans avoir à introduire un nouveau nom, une nouvelle variable de ce type-là. Je trouvais ça.
Ah oui, d'accord.
Ça s'appelle le flow typing. Il y a quelques langages qui supportent ça et je trouvais ça plus élégant que de réintroduire dans un scope là une nouvelle variable.
Alors c'est la même. Tu utilises directement objet. D'accord. Ouais. Ah oui, d'accord. Mais
là où c'est un peu plus intéressant, c'est quand on veut faire ce qu'ils appellent du déstructuring. C'est-à-dire que non pas l'objet string, mais un objet point qui a des coordonnées x et y, on va pouvoir dire, si c'est un objet, instance of point, et là on va mettre les paramètres de constructeur j'imagine, donc int A, int B, à ce moment-là à l'intérieur on va faire du coup un peu le truc qui est plus proche du flow typing dont pas vraiment parce qu'on les déclare, mais disons que c'est plus naturel de dire et d'aller utiliser A et B directement au sein du bloc qui est protégé par le if. Et c'est imbricable ce truc-là.
Ce qu'on disait tout à l'heure avec l'imbrication d'objets, formes qui contient des rectangles, qui contient des points, on va pouvoir accéder à ce qu'on veut comme données membres de ces classes imbriquées, de ces objets.
Voilà.
Okay. Très bon article, Lilian.
Oui.
Groovy s'attaque à plein de choses d'ailleurs. Il s'attaque au thread virtuel, au virtual thread.
Ouais, c'est marrant, là. Donc, il y a mon ami Paul King qui dirige maintenant le projet Groovy, là, qui a fait plusieurs articles assez intéressants avec Groovy et sur le blog d'Apache, vu que chaque projet Apache peut bloguer là-dessus. Donc, c'est c'était plutôt cool. Et donc la première chose qu'il a fait, c'est donc dans Groovy, on a réintégré d'ailleurs dans Groovy un projet qui s'appelle Gparse, pour tout ce qui est programmation concurrente et parallèle. Donc il y a différents modèles de parallélisme de concurrence. Il y a des acteurs, il y a des data flow variables, il y a des qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore. Enfin, il y a différentes manières de faire de la concurrence. Et effectivement, on a les virtual threads qui arrivent dans JDK 19 avec le JEP 425. Encore une chose que c'est écrit dans les show notes, donc je m'en rappellerai pas.
C'est le projet Loom hein, dont on parle.
Voilà. Et du coup, en fait, c'est pas très compliqué de dire. En fait, cette librairie-là, derrière, effectivement, ça utilisait à la base des threads. La manière dont Loom a été créé, c'est qu'on réutilise cette même classe thread, à part que oui, bah peut-être que c'est un thread version Loom ou un vieux thread classique natif. Et là, en fait, simplement parce que on code, contre les threads, je sais pas comment on peut dire. En fait, on peut bénéficier des avantages de Loom avec le même code. Et je trouve ça assez élégant.
Parce que le code, en fait, il prend en entrée un thread pool, en gros.
Ouais, une sorte de thread pool.
Exécuteur. Et puis, au-dessus, on exprime son besoin métier de parallélisation à un niveau au-dessus.
Voilà. Et ce qui est bien... Alors là, moi, je pense que qu'à terme... parce que là, il a montré un petit peu la plomberie, c'est-à-dire comment dire, voilà, je vais utiliser ces thread pool de Loom. Mais à terme, ce sera certainement des nouveaux constructeurs ou paramètres qui simplifieront ça encore plus. Mais en tout cas, je trouve ça, encore une fois, le côté élégant de la solution apportée par Loom, c'est que si tu codais avec des threads, tu peux bénéficier des threads de Loom de manière quasi transparente. Et donc Paul a continué à... Alors il avait déjà fait des présentations sur l'utilisation de Groovy pour faire du machine learning. Et là il montrait... Alors d'ailleurs c'est un projet aussi que je connaissais pas. Est-ce que vous connaissiez Apache Weiyang ou Weiyang, je sais pas trop comment on dit.
Non, moi je connais Weiland qui a foutu la...
Ah non, ça c'est autre chose.
Dissension de la communauté Linux, mais...
Et en fait, Weiyang, une combinaison de Weiyang et de Apache Spark, qui lui est un petit peu plus connu, où il montrait justement comment utiliser l'algorithme de K-means pour faire de la clusterisation. Je sais pas, on dit clusterisation en français d'ailleurs.
Oui, ça se dit.
Cluster, c'est une grappe, mais on n'a pas la notion de verbe.
La grappation.
La grappe, voilà.
C'est invente. Donc, il montre comment le faire, justement, avec Weiyang, et après, comment passer ça à Spark. Et il a montré aussi, en fait, on parle toujours de PyTorch, de TensorFlow, etc., qui sont des librairies plus connues, mais en JavaScript, en Python, pour faire du deep learning. Et en fait, en Java, il y a quand même plus d'une librairie qui permet de faire du deep learning. Et donc, Paul a écrit un autre article où il montre, c'est un des trucs classiques de classification avec les fleurs, les iris à reconnaître. Et il montre justement, alors du coup, attends que je retrouve la liste. Donc, il y a différentes catégories dans tout ce qui est deep learning, ou statistiques, etc. Donc de manipulation de données, de classification, de visualisation, et en fait il y en a beaucoup de produits dont Weka, TableSaw, etc. De Learning4j. Et attends, c'est lequel que je connaissais pas. Enfin bref, il montre en tout cas différents exemples avec par exemple DeepNet, ce que je connaissais pas et qui fait partie. Enfin si d'ailleurs. Je crois qu'il fait partie de... Si, en fait, celui-là, je le connaissais. Il y a une API JSR 381. Je ne sais pas si ce sera inclus un jour dans un JDK ou pas. Justement, en tout cas, pour définir ses propres réseaux de neurones, leur structure, les nombres de couches, etc. Et il montre comment faire ça en Groovy. Donc voilà, plutôt cool. Plein de petits trucs sympas avec Groovy et du deep learning en Java ou Groovy.
D'accord. Je regardais 380. Oui, c'est pour la reconnaissance visuelle spécifiquement. C'est pas pour.
Ouais, celui-là. Oui, tout à fait. C'est pour la reconnaissance visuelle.
Alors, on va, pour ceux qui, bah, comme moi, sont nés dans le orienté objet, y a un article qui fait un petit description des divers jargons de la programmation fonctionnelle pour essayer de comprendre c'est quoi un functeur, c'est quoi un monoïde.
Un monoïde.
Et avec, et puis le, alors, la programmation fonctionnelle, elle est arrivée dans les langages. Comment ?
Les hémorroïdes, on est si vieux.
C'est mon cerveau qui dit « dis rien ». Et donc, ça a été traduit dans plein de langages. Alors, non seulement…
En langue et en langage.
Avec Python, etc. Mais aussi en langue, ouais, c'est en portugais.
Ouais, en portugais, en espagnol, en chinois. Non, il n'est pas en français.
Ah, c'est ça qui est dommage. Ah, qui veut le traduire en français ? Allez, hop,
allez,
on lève la main.
Alors, il y a quand même, dans tous les morphismes, ça m'a fait marrer, hein, parce que il y a l'endomorphisme, l'isomorphisme, l'homomomorphisme, le catamorphisme, l'ananomorphisme, l'hylomorphisme, le paramorphisme et l'apomorphisme. Donc, ouais. Voilà, si vous voulez traduire tout ça en français.
Ça va être les mêmes. Hein.
Oui, mais après, alors, il décrit, hein, c'est que l'article est pas mal, si ça vous intéresse, parce qu'effectivement, donc il prend tous ces termes quand on baigne pas dans la programmation fonctionnelle. Moi, il y a 80% que je connais pas, mais c'est vrai qu'il les explique en anglais, mais surtout il montre du code. Donc c'est vrai que c'est pas mal, moi, si vous voulez comprendre enfin ce que c'est qu'un monoïde ou de l'homomorphisme, bah il vous l'explique qu'en anglais puis avec du code, donc c'est plutôt pas mal.
Après, ce que j'aime bien aussi, c'est, je trouve que c'est, enfin, il y a une certaine gradation dans la complexité, parce que, tu sais, quand tu commences par, le premier, c'est quoi, l'arité des fonctions. Oui. Bah, ok, ça, on s'en rappelle quand même un petit peu des cours de maths. Après, les fonctions d'ordre supérieur, c'est comme ça qu'on dit, higher order functions, les closures avec les lambdas, etc. On commence à bien connaître. Partial application, currying. Bon, petit à petit, c'est des choses un petit peu plus compliquées. Et après,
qui s'appuient les uns sur les autres.
Les uns sur les autres. Ouais. Et après, bon, on finit avec des morphismes, des lens, des choses comme ça. Mais j'aime bien, c'est progressif en tout cas.
Oui, oui, oui.
Et pour ceux qui ont joué à XCOM Enemy Unknown, il y a les cétoïdes.
D'accord.
Voilà, pour avoir joué à ce truc-là. Ok, on va passer aux librairies et nous allons commencer par Spring Boot qui a sorti sa version 2.7 pardon, avec des nouveautés, notamment le support de, enfin l'intégration de Spring GraphQL 1.0, le support pour Podman et pas que Docker en tant que commande. Donc les commandes Podman et Docker se ressemblent beaucoup. Après, il y avait des fois les petites variations de comportement, donc ils ont dû introduire le support des deux. Parce qu'en fait, avec le passage de Docker en payant, bah, certains sont partis vers Podman, d'autres sont restés sur Docker. Voilà. Donc, du coup, il y a le support des deux branches de la communauté. La gestion de dépendance et de l'auto-configuration pour Cache2K, Cache 2000. C'est vraiment un nom des années 90.
Oui, tu m'étonnes. K2000.
K2000, ouais.
K2000.
Des nouvelles annotations. C'est pas Macron qui joue à cache-cache au Touquet, non?
Oui, c'est vrai. Des nouvelles annotations autour de l'utilisation d'Elasticsearch et de Couchbase. Donc, je sais pas si c'est dans Spring Data ou ailleurs. Et puis, une info. Ça sera la dernière version avant la Spring Boot 3 qui s'appuiera sur Spring 6 avec plus de changements. Et en tout cas, il recommande aux gens de migrer une version à la fois parce qu'il y a toujours des petites choses qui cassent, en fait, d'une version de Spring Boot à l'autre. Et ben, soit vous en tapez 5 d'un coup et puis vous dites, ah, c'est impossible, c'est un projet de multiples semaines, soit vous faites ça les unes après les autres et c'est plus simple. Voilà. D'ailleurs, je vous recommande ça pour Quarkus et d'autres Micronautes, j'imagine, c'est un peu la même chose. Donc, restez à jour, mesdames et messieurs.
Eh oui.
En parlant de ça, donc Quarkus 2.10 est sorti. Donc on parlait des Virtual Threads un petit peu avant. Donc là, il y a des travaux préliminaires autour des Virtual Threads, donc et du projet Loom.
C'est le bien, support. J'ai vu même que Clément Escoffier avait fait un talk là-dessus. Il faut absolument que je regarde parce que j'ai pas bien compris ce que ça faisait puisque. Je crois que c'est aussi dans la programmation réactive qui met ça. Donc, j'ai pas bien compris. Voilà, il y a un talk de Clément Escoffier en anglais et je crois même en français sur Loom et sur Loom dans Quarkus.
Ouais. Avec Arthur, qui est un postdoc de mémoire. Support non bloquant pour GraphQL, donc une API non bloquante pour utiliser GraphQL. La prise en charge des Kubernetes Service Binding pour les clients SQL réactifs, donc le support des bases de données classiques était pas mal là, mais là maintenant il y a les supports SQL pour les bases, pour les approches non réactives, enfin pour les interactions non réactives. Alors le CASCII générateur pour l'extension de cache, je crois que petit à petit on a complexifié l'API de cache qui était juste avec des annotations à la base. Ensuite on a ramené une API, donc voilà, on continue à amener de la fonctionnalité autour de ça. Et puis une petite info de migration, donc alors c'est pour les gens qui écrivent des extensions, donc pas pour les utilisateurs, qui utilisent Quarkus pour écrire des applications. Mais pour ceux qui écrivent des extensions, le Quarkus Bootstrap Maven plugin a été déprécié et remplacé par le Quarkus Extension Maven plugin. Voilà. Et puis, un peu plus de documentation autour de Stork, qui est l'abstraction de service discovery, notamment comment utiliser Stork dans un contexte Kubernetes. Le guide de référence, donc c'est pas vraiment un how-to guide, mais un guide de référence autour de l'utilisation client de OpenID Connect. Et puis aussi Podman avec Quarkus. Donc on a vu Spring et Quarkus qui suivent un peu ces deux choses-là.
Ouais, il y a du Podman partout, de plus en plus. Ouais.
Podman partout. Et en parlant de Podman, aucun rapport.
C'est Marvel ou c'est DC Comics Podman? C'est pas un super-héros.
Il a été parce que j'ai pas entendu Mar, alors j'ai entendu RHEL. Alors moi, pour moi, RHEL, c'est Linux, toi, Linux. Red Hat, pour moi, Linux. Et puis après, DC Comics, c'est là que ça complète pas ça. Il y a OpenAPI 2, et puis maintenant, il y a OpenAPI 3. Et donc, il y a un petit article qui explique les différences.
Ouais, alors, c'est moi qui l'ai mis, cet article. Donc, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Donc, enfin, fondamentalement, c'est pas non plus complètement différent, rassurez-vous. Mais il y a des petites choses qui ont été améliorées. Donc, par exemple, il y a la notion de lien qui permet de lier des réponses et des opérations. Donc, par exemple, quand on fait des API hypermédias où on veut dire que, je sais pas moi, par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? Cette adresse.
Bah, une liste pour faire next, first, last.
Donc ça, par exemple, pour la pagination, ça peut être aussi pour revenir à un objet parent ou ce genre de choses, ou connaître les enfants d'un objet. Donc tout ce qui est lien qui relie différents concepts. Donc on a une nouvelle notion de lien qui permet de relier tout ça. C'est un peu un pléonasme. La structure du document OpenAPI a été un petit peu modifiée en combinant par exemple le base path et les schemes et aussi en rassemblant les security definitions, donc ce qui n'était pas forcément très cohérent dans OpenAPI 2. Donc là c'est un petit peu mieux regroupé. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Des améliorations sur les security schemes et en particulier autour de ce qui est OAuth2 et puis OpenID. Il y a plus de clarté dans la négociation de contenu et des cookies. Les sections des exemples aussi. Ah oui, ça c'est utile aussi, par exemple, quand on génère des SDK et de la documentation et qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on passe en requête, qu'est-ce qui est retourné en réponse, etc. Donc, la partie exemple est plus claire, en tout cas. Le support étendu de JSON Schema, alors un des trucs, alors du coup, d'ailleurs, je sais même pas quelle version ils mettent maintenant, un truc qui était un peu pénible aussi, je trouve, c'est OpenAPI 2, utiliser une version draft de JSON Schema et encore pas tout du draft 7 ou je sais plus combien c'était. Alors là, par contre, je sais plus si dans OpenAPI 3, c'est une version plus stable, tu sais, juste le énième draft de JSON Schema, mais en tout cas le support est étendu. Alors je sais pas s'il est complet, mais en tout cas il est étendu et supporte plus de all-off, one-off et tous ces trucs là de JSON Schema. Un petit truc qui est pas mal. Alors est-ce que voilà, il s'inspire ou pas de
async? Juste pour l'info, on en est à la patch release. Enfin, en 2022, ouais. C'était la patch release du draft 2022. Donc, c'est pas non plus que l'aspect ouais. qu'elle évolue.
Ouais, bon, c'est marrant. Et pourquoi, enfin, je veux dire, pas sortir une version bon, 3.1, ok, on utilise
la 3.1. C'est la peur 1, du commit.
Des drafts de patch de machin.
C'est classique.
Ouais, mais enfin, je trouve, bon, je ne vais pas critiquer ceux qui sont derrière, je ne les connais pas, mais... Je pense qu'il pourrait faire un petit travail sur le apprendre ce que c'est que le SEMver, etc. Donc il y a l'introduction d'une notion de callback et qui est importante pour les API asynchrones et en particulier les webhooks. Donc là on peut dire ça c'est un callback, donc on pourra rappeler sur telle URL. Et ce que je disais, ce que je commençais à dire, c'est que donc il y a une autre API qui s'appelle Async API. D'ailleurs, il y a, j'ai oublié son nom, à Devox France, il y a quelqu'un qui a fait une présentation sur Async API, j'ai oublié son nom. J'espère qu'il ne m'en voudra pas, vu qu'on a échangé sur Twitter et tout ça.
Oui. On l'avait recommandé dans un épisode précédent. Donc,
oui, d'ailleurs, ouais. Ça. Exact.
Et, voire même dans le live de Devox.
Aussi, France, c'est vrai. Et, mais tu vois, le temps passe et du coup, j'oublie les noms. Hein. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc je me dis, est-ce que c'est pour essayer de rattraper un peu ce qu'a fait Async API pour rajouter de l'asynchrone dans OpenAPI 3? Est-ce que ça va être complémentaire? Est-ce que je sais pas exactement, mais bon, en tout cas, pour ceux qui utilisent OpenAPI, c'est bien d'étendre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que du REST pur, il y a d'autres concepts. Et en particulier, bah, les webhooks, c'est aussi une approche intéressante pour les API.
C'est ça que j'ai pas super compris. C'est-à-dire que le webhook, ouais. On voit bien que c'est pas vraiment, enfin, c'est de l'asynchrone, mais vraiment à la web. Ouais. Alors que Async API, ça te permet d'exprimer ce que fait ton Kafka,
il y a plus de choses,
etc. Voilà.
Ouais, tout à fait.
Donc, je sais pas s'ils cherchent à aller sur ce terrain-là ou vraiment rester sur le côté HTTP des API, en fait.
Ouais, je sais pas.
Mais effectivement, si on a une API avec le navigateur, pouvoir parler des server side events et les exprimer, bah c'est top.
Ouais.
Donc c'est ça qu'ils ont couvert.
Ouais. Donc, un meilleur support en tout cas de l'approche web classique, quoi.
Yes. Nous allons passer à l'infrastructure. Donc descendez à la cave.
Ouais.
Et un
alors,
article.
Alors faut pas utiliser Kubernetes ou quoi alors?
Ouais, bah apparemment, pas tout de suite, pas mature encore. Je crois que ça doit être ça. Hein,
Ou c'est déjà has-been et puis faut passer à autre chose.
Non, mais c'est marrant ces articles parce que, bon, on va détailler, mais pour moi, quand même, Kubernetes, il a passé le hype, la désillusion, il est plutôt dans la phase adoption. Donc, quelque part, soit ces articles sont un peu tard, soit c'est un peu des articles classiques. Et évidemment, si tu n'as pas besoin d'un truc, tu l'utilises pas. Et donc, je pense que c'est un peu ça la philosophie de ce qu'ils disent. Mais qui veut zoomer là-dessus?
En tout cas, sans forcément rentrer tout de suite là dans le détail, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, si, première phrase dans nos show notes, c'est « Kubernetes, c'est bien, mais c'est un gros marteau. » Donc, si tu as des gros clous à enfoncer, c'est bien. Mais après, bon, des fois, tu as des petits clous, tu as des punaises, tu as des vis. Et donc, Kubernetes, alors, ça fait plein de trucs, Kubernetes, c'est sûr. Mais il ne faut pas forcément brandir tout de suite le bazooka. Et des fois, des choses plus simples peuvent être mieux. Donc, alors je prends les points un petit peu dans le désordre, mais ce que j'aimais bien dans ce premier article, en tout cas, c'était le fait qu'ils expliquaient aussi faire une sorte de parallèle avec... Enfin, de parallèle avec la taille des équipes. Donc, toi, en tant que développeur, genre, si t'es solo ou, enfin, t'as moins de 10 développeurs, bah, peut-être que, pour aller le plus rapidement en production avec ton idée, ta nouvelle fonctionnalité, ton nouveau produit, t'as pas une grosse équipe, tu vas pas avoir des millions et des millions de lignes de code tout de suite, bah, peut-être que tu peux préférer des solutions type serverless, genre Google App Engine, Cloud Run, Amazon Appreneur, etc. Après, peut-être si tu passes à quelque chose de plus gros, Cloud Run, Fargate chez Amazon. Et après, bah, encore une plus grosse équipe, genre t'approches de la centaine de personnes, bah, tu vas peut-être utiliser une solution de Kubernetes managée, parce que t'es peut-être quand même pas assez gros pour avoir l'équipe qui va gérer vraiment l'infra elle-même pour ton projet. Donc tu vas utiliser GKE chez Google, etc. Et après, au-delà, bah, si t'as vraiment t'es dans une grosse entreprise avec une grosse infrastructure interne, externe, peut-être tes propres data centers et autres, bah, peut-être que là, tu vas te manager ton propre Kubernetes que tu fais évoluer aux petits oignons, etc. Donc, j'aime bien cette idée de faire le parallèle entre la taille des équipes et peut-être que Kubernetes, c'est vrai que c'est quand même plus de toute façon pour les gros projets, y compris par rapport à la taille humaine des équipes qui bossent dessus, plutôt que pour des petits projets, genre si tu as un microservice ou un site web, bah, c'est l'artillerie lourde quand même de sortir Kubernetes pour ça.
Après, il y a l'historique, hein. Ce que dit Emmanuel, c'est que là, on est en phase adoption, etc., etc., mais Kubernetes est passé par toutes ces phases-là et je pense que les providers cloud étaient hyper occupés à donc implémenter Kubernetes. Tu vois, je parle pour Azure typiquement. Azure, ils ont AKS depuis un bail. Mm. Et il y a un petit nouveau qui vient juste de sortir, hein, il y a quelques semaines à peine, c'est Azure Container Apps. Et en fait, Azure Container Apps, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un Kubernetes hyper managé qui implémente KEDA, donc le Kubernetes Event Driven Auto Scaling. C'est-à-dire que voilà, c'est tout le monde était hyper occupé à faire du Kubernetes, à donc implémenter Kubernetes, Amazon, Azure, Google. Et il y a enfin maintenant avec KEDA qui est sorti il y a peu de temps aussi, hein, où tu vois typiquement pour Azure, après les autres je connais pas bien, on est en train de te dire ne te soucie pas de Kubernetes, tu prends tes applications, on parle même pas de fonctions, de microservices, c'est une application quelle qu'elle soit, tu la containerises et tu déploies ce conteneur et nous on fera de l'autoscaling. Et donc t'as pas du tout à te soucier de Kubernetes, c'est un Kubernetes hyper managé, donc derrière il y a bel et bien du cube, mais t'as même pas en fait accès à la configuration. C'est-à-dire que tu vois typiquement avec Azure, il y a plein d'offres de compute un peu comme App Service où oui, tu peux déployer une appli Java, .NET, Python. Il y avait AKS où oui, tu peux faire du cube, mais il y avait rien en fait au milieu et ça vient juste de sortir. Alors je connais pas bien les offres Google, Amazon.
Bah disons que KEDA c'était aussi parce que Microsoft voulait pas participer à l'aspect Knative et que donc comment il s'appelle, App Service, c'est ça, et que App Service bah ça se base sur KEDA, mais c'est très inspiré de ce qu'a fait Google sur Cloud Run. Donc c'est un petit peu quand même
C'est un peu l'air,
copié.
Après, fondamentalement, Knative a un mode.
Pas mal innové là-dessus.
Après, fondamentalement, Knative a un mode. Enfin, je vois l'usage pour KEDA et Knative, c'est pas forcément exactement les mêmes. Mais c'est vrai qu'il faut aller zoomer un peu.
Ouais, il y a quand même de l'overlap, en tout cas, de faciliter la containerisation, le scaling, le côté serverless des containers. Ça, c'est quand même Cloud Run qui l'a sorti en premier.
Et pour ces outils, plutôt qu'un full cube managé ou qu'un full cube chez soi, parce que c'est une des options dont il parle après dans l'article, ce qu'il faut regarder, c'est quid du truc qui est autour de mon application aussi. Donc, si j'utilise 100% les services Azure pour faire mes 12-factor services, ou si je suis chez Google, 100% des services Google, Je pense qu'il y a effectivement de valeur à jouer entre le function as a service et les containers app déployés et super simplissimes. Si tu commences à dire, ah oui, mais je vais aussi déployer telle partie parce qu'il y a un opérateur qui fournit ou machin, bah là, c'est là où tu vas retomber sur Cube et plutôt sur l'approche dite, enfin, l'infrastructure standardisée sur laquelle plusieurs gens s'appuient, en fait. Donc après, ça va être un choix de, voilà, de temps et de volonté de rester abstrait versus complètement embrasser
et la compétence. Enfin, moi, j'ai plein de clients qui hésitent vachement à aller sur Kubernetes parce qu'ils n'ont pas les compétences en interne, donc ils flippent un peu, quoi.
Ça reste un gros marteau.
C'est comme tu dis, ça reste un gros marteau, quoi, quand même. Donc, ouais. Si t'as pas les compétences et qu'on dit, bah, pour aller sur du cloud, il faut faire du cube, la marche est super haute.
Carrément.
Ouais. Alors, nous, en parlant de Knative, on va parler d'une partie de Knative qui s'appelle Knative Eventing Delivery, des méthodes de delivery dans Knative Eventing. Donc, Knative, ça permet de faire du scale to zero et ça s'appuie sur justement des événements qui arrivent et puis on a des choses qui vont réagir sur les événements. Mais après, il y a des méthodes d'interaction avec ces événements. Donc, la première, c'est du 1-1. Tu dis, quand il y a cet événement qui arrive, envoie-le à telle personne. Donc, c'est du communication à 1 sans garantie puisque ça, c'est en mémoire. Ensuite, on peut dire, moi, je veux persister l'arrivée de ce message. Donc, derrière, il y a, par exemple, un Kafka derrière qui va persister ce message et du coup, donner un peu plus de persistance à ça. Et donc, ça découple plus la source et la destination, du coup, puisque Kafka va faire la notion de buffer. Enfin, Kafka ou autre chose, mais je crois que de base, c'est Kafka qui est un des back-ends. Et puis après, on peut dire, bah voilà, enfin, il y a un truc qui n'existe pas dans les schémas de je reçois un événement et je le consomme, c'est que dans Knative, on peut dire je reçois un événement et je vais renvoyer un événement de réponse. Alors peut-être parce que c'est une erreur, peut-être que c'est une réponse que je veux donner, donc dans un autre channel. Donc là, on gère un petit peu les différents channels. On a un channel d'entrée initiale, un channel des erreurs, un channel des réponses. Et ça devient assez vite potentiellement compliqué à gérer. Alors, faut savoir où sont les channels, etc. Et donc, ils ont cette notion un peu plus élevée de broker. Certains parlent de bridge aussi, qui définit donc c'est défini des types, des filtres et un channel, mais qui est implicite et automatique. Et en fait, la capacité de répondre, de dire bah je reçois ce message et je renvoie tel message. Suite à ça. Et en fait, tout va dans le même channel, mais après, ils sont filtrés potentiellement, et surtout, une personne écoute non pas sur un channel, mais sur un type d'événement. Donc, moi, je suis intéressé aux erreurs du système machin. Moi, je suis intéressé à l'événement de type création de commande. Voilà. Et donc, les triggers sont des abonnements à ces types d'événements spécifiques et non pas à des channels. Donc, ça, c'est un peu c'est un peu plus déclaratif fonctionnel que impératif où on connaît, où on décrit le flow, en fait. Voilà. C'est un peu un moteur de règles plutôt qu'un truc un peu plus impératif. Voilà. Et donc, l'article est intéressant c'est pas si commun de trouver un truc qui explique assez bien les différentes options. Donc, je le trouvais pas mal. On va parler du cloud.
On en a pas parlé.
On en a un peu parlé.
AWS. Et Windows et Cube et Linux. Donc AWS,
le parallèle était marrant.
C'est sur le desktop. Donc, il dit, quelqu'un veut le lancer ou sinon je le fais? Ok. Donc, ouais, vous avez votre règle de non-agression.
De non-agression. Tiens, Emmanuel parle.
Allez, vas-y.
Là, je m'en fous, je vous consomme tous les trois. Alors, pourquoi
il bouffait tous les râteliers.
En fait, la AWS, il y a des équipes qui disent, pourquoi est-ce qu'on utilise, un peu ce qu'on a discuté. Pourquoi est-ce que j'utiliserais Cube à l'époque, en fait, quand Cube sortait? Pourquoi est-ce que j'utiliserais Cube? C'est pas stable, alors qu'AWS offre tout. Et puis, petit à petit, voilà, Cube, la standardisation autour de ces choses-là, donc d'autres players qui venaient là, a fait qu'AWS a été, en gros, forcé de supporter EKS. Mais, disons que c'est pas, enfin, vu de l'extérieur, vu de cet article, c'est pas le service sur lequel ils amènent le plus d'amour, on va dire. Donc, c'était pourri, en gros. Et puis il y a le lock-in, alors un des lock-in en l'occurrence de Microsoft, pas mal à AWS aussi, c'est quand on a l'Identity Access Management, on est un peu en, c'est le crown jewel, enfin les joyaux de la couronne en fait, et du coup c'est beaucoup plus simple, assez facile de dire bah utilise tel service, t'as déjà tes identifiants, tes autorisations, tes groupes qui sont là, et je te gère ton Azure ou je te gère ton AWS IAM, etc. Voilà. Et donc il dit pourquoi est-ce que AWS serait le Windows, alors attends, je comprends plus trop mes notes. Oui, il dit bah voilà, il y a des économies d'échelle, et donc faire chez soi du cube, il y a de besoin de quand même pas mal de gens, d'une équipe SRI potentielle, etc. Donc on a le Windows qui marche bien pour les gens non experts, etc.
Et c'était un peu le parallèle, pourquoi faire du Linux à l'époque alors que Windows marche.
Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est plus de contrôle, pouvoir faire soi-même, et puis de pas payer 10 000 licences une fois qu'on atteint 10 000 machines. Voilà. Et puis il y a cette idée de, je pense que, enfin, ça commence à vieillir ça, mais il y a des gens qui ont été pas mal brûlés par Oracle ou d'ailleurs IBM dans des cas aussi avec des contrats très bloqués. Du genre, vous pouvez sortir, mais toutes les discounts qu'on vous fait sur les 12 produits, elles sautent. Du coup, si vous enlevez ce produit, en fait, vous payez 3 fois plus cher. Voilà. Donc, il y a ce risque, le bus factor, comme ils disent, donc, un besoin d'alternative à AWS. Et on voit le modèle de distribution. Comme il y a des distributions Linux, il y a des distributions Kubernetes. En fait, oui. Kubernetes, il y a la distribution Azure, la distribution Google, il y a la distribution Amazon, il y a la distribution Red Hat avec OpenShift, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est un petit article. Alors, si vous voulez écouter la polémique pour vous faire une idée, ça peut être, un peu passer 5 minutes à le lire. Et en parlant de cloud, donc j'ai pas le lien, mais il y a Google qui spamme les,
un data les boîtes aux lettres à Paris.
En parlant de data center à Paris.
Je peux mettre un lien. Bah ouais, donc là on a ouvert un nouveau data center, donc à Paris, avec 3 zones tout autour de Paris. On a aussi, alors là je suis moins familier avec ça, mais on a aussi annoncé un partenariat avec Thales. Pour le cloud de confiance, donc il y a plusieurs choses. On a d'abord annoncé le cloud avec des contrôles locaux.
Des donc contrôleurs c'est pas les mêmes. Ou des contrôles locaux.
Hein?
Des contrôles ou des contrôleurs locaux.
Contrôleurs locaux. Oui, ça doit être ça. Je sais plus. Comme quoi, j'ai bien suivi l'actualité.
C'est le control plane qui est localisé.
Et donc il n'y a pas les mêmes niveaux non plus de garantie que ce que demande le Secnum Cloud de l'ANSI, ouais. ANSI, je ne sais jamais comment on dit, mais en tout cas qu'il y a une étape provisoire et transitoire jusqu'à donc 2000, je sais plus c'est quoi, 2023, 2024, au début 2024 pour le début de l'offre, enfin si bien sûr l'ANSI valide. Mais on va tout faire pour arriver à être compliant avec Secnum Cloud. Bon, en tout cas, pour ceux qui veulent déjà avoir des données, des serveurs avec des pings encore meilleurs et tout à côté de Paris, et ben voilà, on peut utiliser le data center parisien.
Antonio, toi, c'est pareil, tu sors pas tes données en dehors de Paris parce que sinon c'est l'étranger.
Non mais ouais, attends, Antonio,
enfin là il parle pas de Paris. Là il parle même pas de data center au centre de Paris.
Dans le centre.
Il y a un data center au centre de Paris.
Ah, il y en a
un ancien bunker.
Oui, un truc comme ça, un ancien truc de l'armée.
C'est OVH.
De l'armée.
Et je crois que c'est OVH effectivement.
Ah. Moi,
et là pour le coup c'est au centre de Paris. Ouais.
Ouais. Alors, on va passer à l'outillage. Et alors, ça a peut-être évolué depuis, parce que je crois que ce lien, on l'a mis il y a quelques temps, mais il y a la IntelliJ IDEA 2022.5, qui avait la prévue version 5, qui ils expliquaient un peu les nouveautés qu'ils amenaient, notamment le support de Spring 6 et de Spring Boot 3, les nouvelles... Les les API déclaratives des clients HTTP Spring 6, la complétion et la navigation autour des Spring Cloud Gateway, des routes, le support de Graal, du debugger natif GraalVM, donc ben, GCC, mais dans votre... GDD, non, comment ça s'appelait? GDD, ouais. GDB. GDB, voilà. Mais dans, dans IDE, dans votre IDE. Les code insights autour des microservices, des tests de microservices, notamment des frameworks de mocking. Des améliorations autour des code insights de Spring Shell. Les améliorations du support autour des points d'entrée JAX-RS. Pareil pour WebSocket, pareil pour GraphQL, des améliorations de...
sur le client HTTP.
Ouais, client HTTP. C'est vrai qu'il... on voit qu'ils ont travaillé cette partie-là pas mal. Navigation entre les codes sources, enfin les protobufs et votre code source Java, en fait, les allers-retours que vous faites. Petit support, amélioration autour de Kubernetes et de Docker. La téléprésence notamment, donc intercepter des services Kubernetes avec la téléprésence et du coup les faire exécuter par son machin local ou alors aller à distance. Uploader les images qu'on a créées dans notre Docker local vers un Minikube ou d'autres connexions, Minikube qui tournerait du coup aussi en local. Autoconnexion de Docker avec l'IDE, voilà, et les différentes options des monts de Docker. Voilà, voilà. Donc, bah, mettez à jour, mais en tout cas, de temps en temps, c'est vrai que c'est bien d'aller regarder ce qui est nouveau dans les outils qu'on utilise, hein, plutôt que de cliquer mise à jour et sans regarder. Ça peut vous améliorer des petits trucs au fur et à mesure. Et GitHub a finalement sorti en disponibilité à tous les développeurs de Copilot.
Et justement, il y a un plugin sur IntelliJ ID aussi, de ouais. Copilot.
Ouais. Et sur VS Code, évidemment.
Oui, bien sûr.
Alors, qu'est-ce qui... Bon, bah, c'est annoncé que... Alors, est-ce que eux... Enfin, vous voulez le faire ou je...
Oh, bah, moi, j'utilise pas mal Copilot depuis un petit bout de temps, maintenant. Bah, là, il y a toute une partie... Enfin, l'article présente Copilot, hein, donc... on dit que maintenant c'est pour tout le monde, c'est aussi gratuit pour les étudiants et les développeurs open source. Il y a la version Enterprise, etc., etc. L'article parle pas beaucoup de les problèmes de licence de Copilot et tous les problèmes. Là, il y a eu quelques semaines, il y a eu une levée de bouclier où je sais plus quel projet open source a dit. À partir de maintenant, si vous hébergez votre code sur GitHub, vous n'avez pas le droit de rentrer chez nous. Donc, c'est vrai que le Copilot ramène aussi pas mal de questions sur les licences open source, les algorithmes utilisés derrière, est-ce qu'ils ont accès à tout le code. Voilà, donc il y a pas mal de problèmes liés aux licences quand même. Après, en tant que développeur, donc moi j'utilise Copilot et je suis assez bluffé, quoi. Il n'y a pas une journée où je suis bluffé. Et juste vous donner un pauvre exemple, hier je faisais de l'ASCII doc, donc je faisais même pas du Java, j'écrivais de la doc en ASCII doc et en anglais, quoi. Et ben il m'aide aussi, il termine des phrases, ce qui est un peu flippant, en anglais. Et il connaît la syntaxe ASCII doc, parce qu'à force de passer du markdown à l'ASCII doc, bah je suis en fait un peu perdu pour des liens et des trucs comme ça. Donc je suis assez bluffé, en fait. Oui, en Java, les propriétés. Ah ouais, pareil, l'autre jour, j'étais sur mon Quarkus, et Quarkus des properties, ils en ont 400 000. Et donc j'étais là, c'est quoi la properties machin, et je fais Quarkus, et puis là il me complète tout, donc il me complète la propriété égale tartampion machin bidule. Je me suis dit, mais comment ça marche, c'est quoi ce truc? Donc il y a pas eu une journée où je suis pas bluffé par Copilot, en fait.
D'accord.
Et je sais pas si je dois avoir peur ou si je dois user et abuser de Copilot.
Donc déjà, il y a un truc qui m'a impressionné, c'est qu'ils disent que en Python, dans les classes où ils utilisent Copilot, il y a 40% du code qui est écrit, généré par Copilot. Et là, tu dis waouh.
Ouais, ouais.
Et ils disent que ça arrivera de plus en plus sur les autres langages aussi.
Oui, là,
tu dis, Java, soit Python a beaucoup de boilerplate, soit ouais, c'est ça.
Là, Java, je pense que le plus qui m'est complété, c'était un if avec un else, quoi. C'était 4 ou 5 lignes. J'ai pas encore eu des trucs de malade comme ça, quoi.
En tout cas, l'article qu'on a mis, c'est aussi le lien vers l'analyse de Redmond, qui sont des analystes en source ouverte d'ailleurs. Donc, il décrit Copilot comme une version plus de l'autocomplétion intelligente. Donc, c'est exactement ce que tu as dit. Que c'est vrai que il y en a d'autres qui sont sur ce marché-là, mais c'est le premier à cette taille-là, en tout cas, en termes de boîte. Après, Google en a plein, ils complètent aussi vos emails, donc c'est un peu ce que tu décris pour AskiDoc, mais là, c'est vraiment focalisé sur le code.
Oui, c'est vrai que la complétion, on l'a de plus en plus, les mails, Word, enfin, tu vois, tous les outils qui vont, tu tapes deux lettres, ils te complètent un mot. Mais c'est vrai que là, c'est quand même la boîte qui est à GitHub. Donc il y a quand même des dizaines de milliards de lignes de code à analyser, quoi. Donc ils ont une base de données de code énorme. C'est-à-dire que qui aujourd'hui a cette force de frappe là.
Tu vois, les repos sont ouvertes, hein, tu peux les scraper quand même.
Oui, bien sûr.
Et donc, ce qu'il explique, c'est que l'avantage de Copilot, faut le voir sur 4 dimensions, la productivité, la qualité de code, la sécurité du code, du coup, et la légalité. Et il dit, en gros, sur la productivité et la qualité de code, donc ça reste à voir, mais exactement le retour d'expérience que tu as donné, Antonio, les gens sont impressionnés, on a eu Arnaud qui nous a fait la même. La sécurité, il y a peu de retours soit d'un côté ou de l'autre. Voilà, moi mon commentaire, c'est que de toute façon les développeurs humains, c'est pas vraiment des lumières de la sécurité non plus. Je prends là encore exemple d'Antonio.
Mais tu vois, ce qui est intéressant, et là je parle un peu dans le vide, hein, mais GitHub, ils ont ce qu'ils appellent CodeQL. Du query language pour le code, et c'est grâce à CodeQL qu'ils analysent ton code et qui te recommandent des problèmes de sécu, typiquement les CVE. Donc il y a une grosse base de données avec les CVE, et quand tu pushes ton code, si t'as CodeQL, ça va introspecter tout ça et ça va te chercher dans ton code où est-ce que tu as potentiellement une faille ou un risque de CVE. C'est peut-être pas encore couplé avec Copilot, mais c'est la même boîte derrière. Donc effectivement, tu vois bien la sécurité qui pourrait être améliorée, je pense.
Ouais. GitHub, lui, légalement, il pense qu'ils sont pas responsables de la violation du code qui est généré, parce que pour eux, l'attribution, c'est que ce sont des machines et des algorithmes qui transforment, donc il n'y a pas de notion de prise de propriété intellectuelle, et que ça a l'air d'être le consensus des avocats de manière générale aujourd'hui sur le marché, enfin, de ceux qui s'y intéressent. GitHub dit qu'on reste responsable en tant que client du code qui est écrit avec Copilot. Donc, il vaut que l'auto-complète, mais c'est toi qui le commit. Et implicitement, en gros, GitHub dit que la licence du code source ne se propage pas au code généré. Donc, la question, c'est effectivement, si je lis du code propriétaire dans un GitHub entreprise et que j'utilise ça pour mes bases de machine learning, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le code, il a la licence de Goldman Sachs ou alors? Et pareil pour la GPL, en fait, pour le coup, en public. Et donc, là, c'est pas clair, mais pareil, les avocats ont l'air plutôt OK en pratique. En fait. Donc, moralement, on peut faire l'argument que c'est quand même pas OK d'aller piquer le code des gens et de générer des trucs en violant, entre guillemets, l'esprit de la licence. GitHub dit que c'est à peu près 1% du temps où c'est copier-coller verbatim plutôt que transformer. Voilà. Mais après, la transformation d'un code GPL, ça reste un code GPL en théorie. Après, il y a un curseur à mettre et qui est à évaluer par les avocats et les cours d'appel. Et donc, c'est 1% du temps du code copié verbatim de plus de 150 caractères, juste pour être précis. En gros, la question, c'est que pour l'instant, le marché s'en fout un peu des licences. On voit les open core, on voit des passages vers plus de fermetures et que le marché est plutôt tolérant face à ces entreprises qui jouent la fermeture. Il mentionne le risque potentiel de réputation de Microsoft. Donc, tu parlais un peu des backlash, oui, Antonio. Ouais.
Voilà. Dernièrement, là, il y a pas mal de communautés open source qui disent sortez de GitHub, quoi. Donc, d'ailleurs, oui, c'est plus le risque de réputation.
Disait que quand les gens râlent, ils disent pas GitHub c'est de la merde, ils disent Microsoft c'est de la merde. Donc, en fait, ça monte à la maison mère, qui se fait taper. Voilà. Et donc, la question fondamentale pour Redmond, c'est quand et si les gens sont prêts à accepter cet usage. Voilà. Donc, bon, je vous encourage à aller lire l'article. Il explique sous forme de FAQ, donc ça se lit plutôt bien.
Mais je donne toujours le même exemple qui m'avait marqué. Moi, je crois que je l'ai cité au moins 5 ou 6 fois, donc je vais peut-être arrêter. Mais à l'époque, c'était le monsieur open source de Sun qui faisait des prêts sur l'open source. Et il s'était fait un peu tacler à la fin sur la question, mais vous êtes bien beau, mais vous faites ça sur un Macintosh. Et il avait sorti cette phrase qui m'avait marqué que je ressors tout le temps. Il disait, il n'y a rien de pire qu'un esclave heureux. Et ça me rappelle un petit peu ça, c'est-à-dire que Copilot, moi je suis assez bluffé. S'il va s'améliorer, peut-être que ça va devenir un énième outil que j'utiliserai en fait. Et si on m'enlève cet outil d'ici 2 ans, peut-être que je me dirais non, mais en fait j'ai bien compris qu'il viole plein de licences, mais en fait je suis super heureux. Tu vois, c'était un peu ce, tu vois, c'est un peu ce truc, et on est tous un peu là-dedans. Tu vois, on a des Mac, on a des iPhone, on a des machins. Enfin, je suis pas Stallman avec un Linux et puis Vim et puis. Et c'est quoi le browser qu'il utilise déjà? Lynx.
Stallman, c'est Lynx. Plutôt Emacs pour le coup.
Oui, oui, oui. Pardon, Emacs. Pardon. Tu vois, Emacs, Lynx, et puis voilà quoi. Donc, on n'en est pas là. On a tous du closed source partout, et c'est vrai que Copilot. Je me demande si on va pas fermer. Enfin, une partie de notre industrie va fermer les yeux en se disant oui, d'accord, bon, c'est peut-être pas super. Les avocats, ils disent que ça passe. Ma conscience, elle sait pas trop, mais quand même, l'outil, il est superbe. Voilà. Donc à voir.
Ok.
Bon, sinon, Gradle publie sa roadmap.
Ouais, historiquement, Gradle Inc., la société derrière Gradle, ne publiait pas vraiment sa roadmap officielle en ligne. Donc, après, on peut toujours voir tout ce qui est tické dans GitHub, etc. Mais cette fois-ci, donc, il y a dans GitHub, il y a une roadmap board qui est visible et disponible pour tout le monde, et pas seulement, du coup, pour les clients de Gradle. Donc, on peut voir. Avoir un peu plus de transparence, en tout cas dans ce qui va venir. Ils mettent, si je me souviens bien, ce qui a été réalisé au trimestre précédent, pour qu'on voit ce qui vient de sortir, et puis les 3 trimestres suivants à venir pour savoir ce qui va se passer. Voilà.
Et je loue ça parce que même sur des projets internes, c'est pas forcément simple d'aller travailler pour construire une roadmap qu'on sait extrêmement
volatile, changeante,
par la nature de l'industrie dans laquelle on est. Donc c'est cool. Et je sais que c'est un effort parce qu'on l'a fait sur Quarkus, et c'est du taf en fait. C'est du taf récurrent. Donc c'est le pire de taf. Faudrait copilote de roadmap.
Ah bah ouais, tiens. Malaise.
Sinon, Tecton Groovy, mais n'utilise pas Groovy, mais Groovy au sens minuscule, voilà, au sens G minuscule.
Tecton, voilà. Groovy, baby. Donc, Groovy dans le sens épatant, époustouflant, mot un peu vieillot. Et donc l'article, alors refait un petit peu un historique de ce qui est. Enfin, l'histoire du CI/CD, etc. Et aussi en comparant avec l'approche qui est celle de Jenkins, avec les pipelines Jenkins qui sont décrits en Groovy, enfin une version un petit peu
muselée. Ça, parce qu'Arnaud est parti, c'est ça?
Oui, ouais. J'allais dire ça, tu parles au passé, parce qu'Arnaud a quitté la boîte.
Une version un peu muselée de Groovy à l'intérieur de Jenkins. Donc, des fois, les gens râlent ou ont une idée un peu préconçue des fois de Groovy parce qu'ils ont juste l'expérience de Groovy dans Jenkins. Mais bref, donc qui explique un petit peu la structure et compare et contraste donc l'approche de syntaxe un peu imbriquée de Groovy dans Jenkins avec oh bah regardez finalement YAML ça ressemble un peu quand même hein, avec les accolades en bois. Et puis donc il réexplique un petit peu les différents concepts qu'on trouve dans Tecton, donc tout ce qui est task, exécution de task, task et task run, pipeline et pipeline run. Et puis qu'est-ce qu'il dit d'autre, parce que là je jette un coup d'œil.
Bah après, dans la... ouais, voilà, enfin, il montre l'outil,
comment l'installer, l'utiliser, voilà.
Et puis surtout un petit exemple, comme ça, ça vous permet de voir les différents concepts utilisés.
Voilà.
Je trouvais que c'était pas mal, c'est pas si long que ça. Si vous voulez vous savoir, les gens parlent de Tecton, savoir un petit peu plus concrètement.
Ouais.
Comment ces fameuses ressources, qui sont des ressources Kubernetes en l'occurrence, sont exprimées et du coup exposées en tant que ressources. Donc c'est pas juste des concepts, c'est des concepts qui sont des définitions effectives de vos scripts de CI/CD. Enfin, ouais. Pas les scripts, mais des tâches et des pipelines.
Yes. Voilà, bon article.
Ouais. Sinon, Vim 9 est sorti.
Oh là là, Vim 9, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a
seulement
dans Vim 9?
Ça fait quoi, 25 ans?
Ouais. Ben, on était sur... je sais même pas quelle version, j'ai en local d'ailleurs, je sais même pas de Vim.
Bah, 8.3, comme
ça. Donc, je dois avoir la version qui est par défaut sur Mac, en fait, je pense.
8.2.
En Vim,
non, non, mais Mac, c'est pas pareil. Des fois,
c'est
il y a
des vieilles versions. Il y a... Si, ouais, Vim 2, ouais, c'est ça. 8.2, pardon. Vim 2, c'est le truc en plus. Donc, j'ai. Du coup, ouais, non, bah si, du coup, 8.2, c'était la dernière avant la 9 ou il y a eu du 8.3?
Non, il n'y a pas eu du 8.3, je me suis trompé.
Ah, oui. Ok, d'accord. Donc, oh putain, mais du coup, Mac, ils sont quand même à jour avec Vim, c'est bien ça. Bref, quels sont les changements qui font qu'on passe à une version majeure de Vim? Et ben en fait, c'est surtout le fait qu'il y a Vim Script, une nouvelle version du langage qui permet de définir les plugins, les customisations que tu peux faire dans Vim. Donc qui passe, enfin qu'il y a des changements quand même assez majeurs du langage qui font que ça mérite de passer de 8.2 à 9. Donc ils sont toujours, ils ont toujours eu le souci quand même de la compatibilité avec les anciennes versions. Donc évidemment, on pourra toujours continuer à utiliser du Vim Script 8.2 en même temps que du 9. Mais en tout cas, plutôt que de faire un langage purement interprété comme pouvait l'être Vim Script, là, alors ils rentrent pas trop dans le détail, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de pré-compilation enfin, où tu précompiles la totalité du script et pas juste l'interprétation ligne à ligne. Et apparemment, donc d'après certains benchmarks, dans certaines tâches, il y a des choses qui vont être 10 fois, voire 100 fois plus rapides qu'avec le bon vieux Vim Script 8.2. Donc précompiler au lieu d'interpréter, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ils sont inspirés un peu plus quand même de langages existants comme JavaScript, TypeScript, Java. Alors j'aurais peut-être dû mettre plus de détails. Donc par exemple, il y avait de mémoire la syntaxe pour définir les fonctions qui introduit un mot-clé def, les variables on les déclare avec var et non pas sans rien, donc on sait à quel moment elles sont vraiment créées. Donc il y a différents changements aussi, même par exemple pour les commentaires. Donc là c'est avec des dièses au lieu de c'était quoi, je sais plus.
Ouais, ça.
Et puis
la quote.
Les quotes. Et puis voilà, donc ça a l'air d'être en tout cas plus un langage un peu plus solide.
Bah, c'est vrai que des fois ça ramouille un peu quand tu veux faire de l'IDE avec Vim, tu sens que voilà, il manque un peu de.
Ouais.
De répondant derrière sur des fonctions un peu trop avancées.
Ouais.
Du coup, voilà, quand l'écosystème suivra, ça sera bien.
En tout cas, il a l'air un petit peu plus naturel à utiliser, en tout cas pour ceux qui font, qui sont familiers avec des langages C-like, Java-like et compagnie. Donc, c'est plus... Enfin, par exemple, quand tu avais une fonction, il fallait faire .call, alors que tu as l'habitude, toi, de mettre directement tes parenthèses pour appeler une fonction, des choses comme ça. Donc, ouais. ça paraît plus naturel pour les développeurs qui utilisent des langages modernes. Ouais.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.